أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، سيدنا حبيب الله، سيدنا خير خلق الله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم والجهل. اللهم بصرنا بعيوبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc, chers frères, chers sœurs, inshallah, nous allons reprendre le deuxième cours du commentaire de l'Aqidah al-Tahawiyyah. Comme on l'a déjà vu dans le premier cours, qui était une introduction à ce que c'est l'Aqidah al-Tahawiyyah, du grand célèbre imam al-Tahawi, qui fait partie des savants du salaf, comme on l'a vu. Qala rahmatullahi alayhi, hadha dhikru bayani aqidati ahli sunnah wal jama'a. على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضي الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين وما يدينون به لرب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبهه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة. الصوت مسموع إن شاء الله. Donc on a commencé à traduire et commenter la première parole de l'imam al-Tahawi, rahmallahu ta'ala. Juste, je voudrais rappeler quelques commentateurs plutôt, de la Tahawiyya. Comme j'ai dit la dernière fois, malheureusement, le commentaire le plus répandu, c'est celui de Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, rahmallah, et qui était malheureusement un peu, on va dire, en contradiction avec le livre de l'imam Tahawi lui-même, comme on va le voir. Alors aujourd'hui, inshallah ta'ala, il est important de rappeler quelques autres commentaires de la Tahawiyya. Si vous m'entendez, écrivez un barakallahu fikum. Alors parmi les commentaires de la Tahawiyya, bien sûr, malheureusement, qui n'existe pas en français. C'est pour cela qu'on va essayer, inshallah ta'ala, d'en faire profiter nos frères et nos sœurs francophones et qui n'ont pas la maîtrise de la langue arabe. Et d'autant plus que le commentaire répondu ne répond pas au vrai sens qu'a voulu donner l'imam al-Tahawi à son livre al-Tahawiyya. Car il était, comme on le sait, suivi la croyance de l'imam Abu Hanifa, rahmallahu ta'ala, sa méthodologie, celle qui a été reprise plus tard par l'imam Abu Mansour al-Maturidi, qui a, on va dire, donné un sens méthodologique, et il a théorisé cette façon de comprendre et de défendre la croyance selon l'imam Abu Hanifa, rahmallahu ta'ala. C'est pour cela que la majorité des hanafites sont maturidites, donc ils suivent la méthodologie de compréhension, de défense de la croyance musulmane. Et vous avez les trois autres écoles, Shafi'ite, Malikite et Hanbalite, suivent la méthodologie de l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, rahimahullah ta'ala. À partir de là, on les appelle les Ash'arites. Donc tous deux, ce sont des écoles sunnites, que ce soit les maturidites ou les Ash'arites. Comme les quatre écoles de fiqh, ce sont des écoles sunnites, al-madhhab al-hanafi, al-madhhab al-shafi'i, al-madhhab al-hanbali, al-madhhab al-maliki. Donc tous ce sont des écoles sunnites. Alors parmi les commentaires célèbres de la Tahawiyya, on a celui de l'imam Ismail ibn Ibrahim ibn Ahmad al-Shaybani, rahimallahu ta'ala, qui est mort en 629 de l'Hijr. On a aussi celui de Najmuddin Mankaburis, son ouvrage « An-Nour al-Lami' wal-Burhan al-Safi'. » On a celui aussi de Ribat Allah bin Ahmed ibn Mu'alla al-Turkestani, qui est mort en 732 de l'Hégire. On a un autre commentaire de la Tahawiyya al-Qala'id fi Sharh al-Aqa'id, de l'imam Mahmoud ibn Ahmed ibn Mas'oud al-Qawnawi, mort en 771 de l'Hégire. Donc tous ces ouvrages-là, malheureusement, on ne les trouve pas, hein, même en arabe, ils sont introuvables. Donc il faut vraiment bien chercher pour les trouver. J'ai un petit commentaire aussi du directeur de la grande université de Dabawand de l'Inde, qui est un commentaire extraordinaire, m'a été offert par un des frères qui est parti en Inde. Sharh al-Qadi Sirajuddin, un commentaire de l'imam al-Qadi Sirajuddin, Omar ibn Ishaq al-Hindi, al-Hanafi, qui est mort en 773 de l'Hégire. On a un commentaire de l'imam Mohammed ibn Mahmoud al-Babarti, qui est mort en 786 de l'Hégire aussi. On a un commentaire de la Tahawiyya de l'imam Mohammed ibn Abi Bakr al-Ghizzi al-Hanafi, qui est mort dans les 880 et quelques, je n'ai pas la date précise de sa mort. On a un commentaire de l'imam Mahmoud ibn Ahmed ibn Abi Ishaq al-Faqih al-Hanafi al-Qasantini, qui a fait son commentaire en 916 de l'Hégire. On a un commentaire de la Tahawiyya de l'imam Abdurrahim ibn Ali al-Amasi al-Romi al-Hanafi, qui est mort en 944 de l'Hégire. On a aussi le commentaire de l'imam Kafi Hassan Afandi al-Aqhasari, qui est mort en 1025 de l'Hégire. Et on a le célèbre commentaire de la Tahawiyya de l'imam Sheikh l'imam Abdul Ghani al-Ghanimi al-Maidani, dont je me base principalement, qui est mort, qui est syrien, qui est mort en 1298 de l'Hégire. Et on a aussi un commentaire du Sheikh Abdullah al-Harari, rahmallahu ta'ala, qui est, ça fait pas longtemps qu'il est mort, ça fait quelques années seulement. Donc voilà, grosso modo, les commentaires qui existent de la Tahawiyya. Et vous voyez malheureusement que tous ces commentaires-là sont introuvables. Le seul commentaire qu'on peut trouver, c'est celui qui est bien sûr soutenu par le courant salafi, on va dire wahhabi, puisque il a donné l'interprétation qui concorde à leur façon, on va dire, de voir l'aqida. Alors, pour revenir à notre texte, inshallah ta'ala, on est arrivé la dernière fois dans le commentaire. On a dit que l'imam al-Tahawi, il a fait son introduction pour dire, voilà, cette aqida, puisqu'il suit l'imam Abu Hanifa dans le fiqh, donc elle va concorder, elle va résumer, elle va nous expliquer la façon de comprendre, de défendre de la méthodologie de l'imam Abu Hanifa. Donc on est arrivé à parler de la tribu de l'Qidam, حيث قال رحمه الله تعالى قديم بالابتداء, donc il est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est éternel, sans début, car toute chose dans cet univers-là a là un début, et toute chose a là une fin, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur du début et de la fin. Donc le début, ni le début ni la fin ne s'applique sur lui. Et on a dit bien que Allah a voulu, comme on va le voir dans la fin, inshallah, de la Tahawiyya, comme l'a dit Sahib al-Jawhara aussi. Lama qala Allah subhanahu wa ta'ala, kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Toute chose s'anéantira, aura une fin, sauf la face de ton Seigneur. Donc la face de ton Seigneur, l'wajh, il ne faut pas le prendre dans le sens littéral comme le prennent nos frères, Allah yahdina wa yahdihum, wahhabi ou salafi comme vous voulez. Il faut le prendre dans le sens métaphorique. C'est-à-dire que l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si on le prend dans le sens littéral, Allah azza wa jal parle aussi de main. Yadullahi fawqa aydihim. Alors si on prend le sens littéral comme disent nos frères, alors ils disent qu'Allah a une main, qu'Allah il a un wajh, une face. Et dans le verset, il a dit que toute chose aura une fin sauf sa face. C'est-à-dire sa main, elle aura une fin? Non. Donc si on prend la face dans le sens métaphorique, aussi la main, on la prend dans le sens métaphorique. Et encore, Allah a parlé de yid, il n'a pas parlé de main. le sens du mot yed a plusieurs sens plus vastes que le mot main en français. Donc, on dit la main de tel ministre ou tel responsable, elle est longue. C'est pas qu'elle a 2 mètres ou 3 mètres, c'est-à-dire il a un pouvoir. Et quand on parle de la face d'Allah Azzawajal, on parle de son essence. C'est-à-dire toute chose s'anéantira sauf l'essence d'Allah Azzawajal. Et ensuite, Allah a voulu qu'il y ait des choses qui ne vont pas s'anéantir. Le jugement dernier, tels que les corps des prophètes, tels que les âmes, tels que le trône. On reviendra sur le trône. Qu'est-ce que c'est que le trône? C'est pas un siège où le Seigneur va s'asseoir. Attention. Cette croyance n'est pas la croyance des musulmans. En fait, attention. C'est le trône qui a besoin d'Allah et ce n'est pas Allah qui a besoin du trône. L'univers tout entier, le trône, le kulshi, l'arche, les anges, toute la créature a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah azzawajal n'a besoin d'aucune chose. Donc il est éternel, son début, da'imun bil intiha. Donc, Imam al-Tahawi rahmallahu ta'ala ne parle ici des attributs qu'on trouve dans la Jawhara, de l'éternité et la pérennité et la pré-éternité. Al-Qidamu wa al-Baqa. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'ultime sans fin. Il est le premier sans début et l'ultime. Le dernier, c'est-à-dire rien n'est après Allah Azzawajal, il n'a pas de fin, il n'a ni début ni fin. C'est lui le créateur du début et de la fin. Da'imun bil intiha. C'est-à-dire l'être humain, il n'existait pas, ensuite existe, ensuite va mourir, c'est-à-dire il était dans le néant, ensuite Allah Azzawajal l'a fait exister, ensuite il n'existera pas, ensuite il sera ressuscité. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, il est comme il était, toujours existant. Thumma qala, la yafna wa la yabid. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne s'anéantit pas comme la créature. La yazul ou baqa'u. Kullu shay'in yafna wa kullu shay'in yamut illa Allah. Alors, toute chose et c'est-à-dire peut finir, peut s'anéantir, sauf le Créateur, subhanahu wa ta'ala. La yabid, c'est-à-dire ma'na la yanqati' baqa'uh, c'est-à-dire il est éternel. Il a l'attribut de la pérennité et de la pré-éternité. Wa la yakunu illa ma yurid, subhanallah. Fa'alun lima yurid. Allah subhanahu wa ta'ala, wa la yakun, rien ne peut se passer dans cet univers, sauf si Allah azza wa jal le veut. Illa ma yurid. Là, Sheikh, l'imam al-Tahawi rahmallah, nous parle de l'attribut de la volonté, l'irada. Ma hiya l'irada? Qu'est-ce que c'est que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala? La volonté, c'est un attribut éternel d'Allah subhanahu wa ta'ala qui concerne son essence et qui donne, spécifie les caractères de chaque créature. Et la puissance, le qudra, exécute ce que l'irada a voulu. Donc, l'attribut de la volonté donne les caractéristiques à chaque créature, grande, petite, la couleur, etc., le volume, et la qudra exécute, fait exister cette chose. Innama amru idha arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut une chose, il lui dit soit, et elle est ainsi comme il l'a décidé, selon sa volonté. Subhanahu wa ta'ala. Idhan, iradatullah subhanahu wa ta'ala tanfudu fil khalaq. Donc, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est elle qui passe, et c'est elle qui fait exister, et c'est elle qui donne les caractéristiques, et c'est elle qui définit les choses. Il n'y a aucune chose qui peut exister dans cet univers sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. La tablughuhu al-awham. Al-wahm, c'est-à-dire la pensée, si vous voulez, ou bien la réflexion, on ne peut, avec nos cerveaux limités, arriver à connaître Allah subhanahu wa ta'ala véritablement. C'est-à-dire que nos pensées, elles sont limitées. C'est pour cela qu'il y a eu une divergence, un grand débat entre les Mu'tazilites et les Sunnites, Ash'arites et Maturidites, car pour eux, la raison peut arriver à la foi et à la croyance et déterminer, ainsi que les philosophes aussi, Ibn Rushd, etc., Ibn Sina, qu'on peut, à travers la raison, arriver à des bases de croyance. Contrairement aux Sunnites qui disent non, on a besoin de révélation, c'est Allah qui nous définit ses attributs, c'est lui qui nous envoie des prophètes afin de nous faire comprendre, faire découvrir la bonne croyance et la vraie croyance, car la raison, comme l'a démontré l'imam Abu Hamid al-Ghazali dans Tahafut al-Falasifa, la raison elle a ses limites. Donc la pensée de l'homme ne peut atteindre la vérité divine. Voilà tudrikuhu al-afham. Les pensées, les imaginations ne peuvent pas concevoir la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'on a les versets coraniques, on a les hadiths authentiques qui nous définissent les attributs d'Allah avec la compréhension authentique de nos grands savants prédécesseurs, comme l'a compris les sahaba, leurs élèves et les élèves des élèves. Tout est transmis par des chaînes de transmission authentiques. La religion ne se limite pas à un ou deux, ou trois, ou quatre, ou dix, ou vingt savants, mes chers frères, comme malheureusement aujourd'hui, on a une poignée de noms qui se répètent au long de journées. Non. Subhanallah. La religion musulmane ne se limite pas à un seul cheikh ou à un seul savant. C'est un ensemble vaste, étendu, des milliers, des centaines de milliers de savants qui ont pris ce khayr. Et tous, dans leur totalité, ils ne se mettent jamais d'accord sur un égarement. La tajtami'u ummati ala dalala. Les quatre grandes écoles de fiqh, Allah a voulu que c'est eux qui ont gardé l'architecture et l'arborescence de cette religion à travers les siècles. Donc, la foi et la croyance ne peut être comprise que comme l'a compris le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et comme il l'a expliqué à ses compagnons, qui sont des milliers, et comme les compagnons ils l'ont expliqué, transmis à leurs élèves, et leurs élèves tabi'in et l'atba' tabi'in, et les élèves des élèves jusqu'à aujourd'hui. La science ne s'apprend pas directement des livres, ou bien des CD, ou bien des sites internet comme cela. On utilise bien sûr ces moyens, internet, etc., comme on le fait aujourd'hui. Mais il faut que ça soit de bouche à oreille. Une personne qui va lire directement d'un ouvrage, elle peut comprendre le sens inverse. Elle peut tomber sur un ouvrage, un livre, qui n'est pas une référence. Surtout aujourd'hui, malheureusement, avec les chaînes satellitaires, avec les bibliothèques qui sont inondées de courants, hein, c'est les courants qui ont de l'argent, c'est eux qui vont inonder le marché. Mais, alhamdulillah, al-haq fawqa nour, il y a toujours la lumière sur le haq. L'islam n'a pas commencé au XXIe siècle, mes chers frères, mes chères sœurs. L'islam a commencé depuis 15 siècles. Donc l'islam, il est étendu, comme je l'ai dit dans le dernier cours, du Maroc jusqu'en Inde, de la Turquie jusqu'au fond de l'Afrique. On ne peut résumer la grandeur de cette belle religion dans sa croyance, dans sa foi, dans sa jurisprudence, dans sa spiritualité, dans sa percée scientifique et civilisationnelle. On ne peut la résumer en une poignée de chouyouk ou de savants ou dans un seul pays. Hacha. L'islam est azim. L'islam, c'est quelque chose d'immense. Personne ne peut le prendre tout seul. Sallallahu ala rasulillah. Comme a dit le Cheikh wa rahmahullah ta'ala, wa la tudilkuhu l'afham, wa la tushbihuhu l'anam. Les humains ne lui ressemblent pas. L'anam. La créature ne lui ressemble pas. Elle ne lui ressemble ni dans son essence, ni dans ses attributs, ni dans ses actes. Subhanallah ta'ala. Donc, wahidun subhanahu wa ta'ala fi dhatihi, wahidun fi sifatihi, wa wahidun fi af'alihi. Il est l'unique dans ses attributs, dans son essence, l'unique dans ses actes et l'unique dans ses attributs, dans son essence et dans ses actes. Wahidun fi dhatihi, wahidun fi sifatihi, wahidun fi af'alihi. La tushbihu al-anam. Kullu ma khatara bi balika fa Allahu bi khilafi dhalik. Tout ce que tu penses, ce n'est pas comme ça, car il n'a pas de comment. L'être humain, il est incapable de concevoir des choses de la créature. Comment il peut penser, réfléchir sur l'essence? Allah Azza wa Jalla nous renvoie toujours à penser, à méditer, à réfléchir sur ces attributs qui sont les miroirs de cet univers-là. On fait un faux, c'est comme Afalat Obsirun, et en vous-même, vous ne réfléchissez pas, vous ne pensez pas. انظر الى نفسك ثم انتقل الى العالم العلوي ثم السفلي تجد به صنعا بديع الحكم لكن قام به دليل عدم. Regarde-toi, regarde comment Allah Azza wa Jalla t'a créé. Regarde l'univers, regarde les étoiles, regarde la mer, regarde les animaux, regarde toute cette créature. Tu découvriras la grandeur, la science, la sagesse, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette créature. Donc toute chose dans cet univers est un signe de l'existence et de la puissance et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a dit le Cheikh Al-Alawi qaddas Allahu sirra, ma min dharratin fil wujud illa wa 'alayha ismun min asma'il ma'bud. Il n'y a pas un atome dans cet univers là qui ne porte pas un signe, un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des signes, ce sont des preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a dit le Cheikh wa rahmahullah, hayyun. Ah, il a commencé à parler de l'attribut de l'hayat. Allah subhanahu wa ta'ala hayy. Il est vivant. L'être humain est-il vivant? Oui, bien sûr, l'être humain est-il vivant. Les animaux sont-ils vivants? Oui, sont vivants. Est-ce qu'ils ont la même vie d'Allah subhanahu wa ta'ala? A'udhu billah hasha. La vie de l'être humain dépend d'Allah azza wa jal. Si Allah ne lui a pas donné la vie, il n'aura jamais cette vie. C'est Allah qui lui donne cette vie, et c'est Allah qui lui prend cette vie. C'est Allah qui donne ruh, l'âme, à l'être humain pour vivre, et c'est Allah qui le prend. Quand il veut, il ordonne à l'ange de la mort, il prend. Allah Azza wa Jal peut prendre l'âme de la personne sans l'ange, mais par sa sagesse, Allah sait pourquoi il a ordonné à l'ange de prendre métaphoriquement l'âme de la personne, sinon c'est Allah Azza wa Jal qui prend les âmes. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض سورة إبراهيم verset 10. Y a-t-il un doute de l'existence de celui qui a créé les cieux et la terre? وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُونَ اللَّهُ Surat Luqman, verset 25. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils te diront, c'est Allah. فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, حَيٌّ subhanahu. حَيٌّ لَا يَمُوت. Il ne meurt pas. Toute chose meurt. Toute chose a une fin. إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ لَمَيِّتُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, tu mourras, ils mourront, mais le shahid aussi, il a goûté à la mort. Mais juste après, Allah azza wa jal lui redonne la vie. Comme les prophètes, Allah azza wa jal leur a donné vie après avoir goûté à la mort. Ils sont tous vivants dans un autre monde qui nous échappe, dont on ne connaît pas beaucoup de détails. Ainsi que tous les shuhada. « وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ مُرْزَقُونَ. Ne crois pas que ceux qui sont morts, fils Abilah, dans les djihad, le vrai djihad, qui sont morts, mais s'ils sont vivants. Bien qu'on les voit, quand ils sont le shahid devant nous, on le voit mort. Mais Allah Azza wa Jal nous dit, ne crois pas qu'il est mort, mais il est vivant. Donc il vit dans un autre monde, qui a bien sûr une relation avec notre monde, mais dont on n'a pas beaucoup de détails. Quelques ulama, tels que l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, ils ont donné quelques détails sur la vie après la mort dans son ouvrage Ar-Ruh, qui est un ouvrage exceptionnel que je recommande à tous les frères de lire. إذن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت قيوم قيوم c'est-à-dire قائم بنفسه c'est-à-dire qu'il n'a besoin d'aucune chose, il n'a pas besoin d'un lieu, il n'a pas besoin d'un endroit, il n'a pas besoin du temps, il n'a pas besoin de l'espace. Au contraire, c'est l'espace qui a besoin d'Allah, c'est le trône qui a besoin d'Allah, c'est les cieux qui ont besoin d'Allah, c'est la terre qui a besoin d'Allah, c'est toute chose qui a besoin d'Allah, et c'est le vrai sens de la ilaha illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah. C'est-à-dire que toute chose a besoin de lui et n'a besoin d'aucune chose. L'être humain, billahi alaykum, il a besoin de combien de choses? Si l'homme commence à comptabiliser les choses et les bienfaits d'Allah qu'Allah lui a donné, il ne peut jamais les limiter. Si vous essayez de comptabiliser les bienfaits d'Allah, jamais vous pouvez les comptabiliser. On a besoin de manger, on a besoin de dormir, on a besoin de respirer, on a besoin. Combien de choses on a besoin ? Sont illimitées. Qayyumun la yanam. Allah Azza wa Jalla ne dort pas. Il n'a pas besoin de dormir. C'est lui qui a créé le sommeil. C'est l'être humain qui se fatigue. C'est l'être humain qui a besoin du sommeil. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Baqarah. La ta'khudhuhu, c'est-à-dire le petit sommeil. Allah Azza wa Jalla n'a pas cela. C'est l'être humain qui a besoin du sommeil, qui dort, etc. parce qu'il se fatigue. Khaliqun bila haja. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le créateur de toutes choses. Qu'est-ce que ça veut dire le créateur? Est-ce que l'homme crée quelque chose? Il ne crée rien du tout. Il ne fait que transformer la matière dans cet univers. Quand l'être humain construit une voiture, il ne fait que transformer les matériaux, le fer, le plastique, etc., qu'il essaye de retirer de cet univers, de profiter de ce que lui donne la terre. Même quand il veut anéantir une chose, il va la brûler. Est-ce qu'il croit qu'il l'a anéanti, mais il n'a fait que transformer la chose en, c'est-à-dire elle était, c'est-à-dire c'est du plastique, du fer, etc., mais elle est transformée en gaz. Et le gaz, il est toujours là, il peut pas le, c'est-à-dire le faire passer de l'existence vers le néant, comme il ne peut pas faire passer la chose du néant vers l'existant. Donc l'être humain ne fait que transformer la matière, mais il n'a jamais ce rôle-là du créateur, car le créateur c'est celui qui fait exister la chose du néant vers la création. Khaliqun bila haja. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin des humains quand il les a créés. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizq. Donc je n'ai créé les humains et les djinns que pour m'adorer. Je n'ai pas besoin de rizq. On va parler du rizq. Je n'ai pas besoin qu'il me donne quelque chose. Au contraire, c'est Allah qui nous donne toute chose. C'est lui qui nous donne l'oxygène, c'est lui qui nous donne l'eau, c'est lui qui nous donne les fruits. C'est Allah Azza wa Jalla décide, il n'y a aucun fruit qui ne peut pousser dans les arbres. Il n'y a aucun légume qui peut pousser de la terre. Il n'y aura aucune goutte d'eau, ni dans la mer, ni dans la terre. C'est Allah Azza wa Jalla qui nous donne tous ces bienfaits-là. Et tous ces bienfaits matériaux dépendent du nom Ar-Rahim. Et les bienfaits de la hidayah, de la croyance, de la foi, dépendent du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman. C'est pour cela... Les choses matérielles, l'homme peut les donner. C'est pour cela qu'on peut trouver des gens qui s'appellent Rahim, mais ne pourra jamais trouver des gens qui s'appellent Rahman, parce que la question de la foi, la question de la guidance, seul Allah subhanahu wa ta'ala qui peut la donner. Comme a dit le Cheikh wa rahmahullah, Khaliqun bila haja, raziqun lahum bila mu'na. C'est Allah qui nous donne le rizq. C'est quoi le rizq? Wa rizqu inda al-qawmi ma bihin tufi' wa qila la bil ma mulik wa mattubi' fa yarzuqu Allahu al-halala fa'lama wa yarzuqu al-makruha wal-muharrama. Le risque, c'est tout ce que tu consommes, que ce soit la nourriture, l'habillement, la voiture, la maison, tout ce qui t'appartient et tu l'utilises. Alors, l'appartenance, al-mulku, c'est possible que tu consommes quelque chose qui ne t'appartient pas. À ce moment-là, cette chose que tu as consommée qui ne t'appartient pas, elle peut être quelque chose de halal, comme elle peut être quelque chose de haram, comme elle peut être quelque chose de makro. Tu as acheté une veste, elle ne te va pas. Tu l'as laissé à la maison, il y a ton frère qui l'a mis. Alors c'est ton mulk, c'est-à-dire ça t'appartient, mais ce n'est pas ton risque. Celui qui l'utilise, c'est son risque. Dalika, l'ange, avant que l'homme ne naisse, ne sorte dans cet univers-là, Allah ordonne à l'ange d'écrire ce que cet homme, cette créature va consommer. Yaktub lahu rizquhu wa ajaluhu wa shaqiyyun am sa'id. Donc, l'être humain, les choses qu'il consomme, c'est le risque. Hein? Et ce risque-là peut être un risque halal s'il l'a gagné avec sa sueur, s'il l'a pris de façon licite, comme il peut être quelque chose de haram, et Allah le punira pour avoir consommé quelque chose de haram. Idhan khaliqun bila haja, raziqun lahum bila mu'na. Donc Allah Azza wa Jalla nous donne ce risque sans qu'il ait besoin d'un moyen, nous, pour. Obtenir quelque chose, on a toujours besoin de moyens. Allah Azza wa Jal n'a jamais besoin de moyens, n'a pas besoin de choses pour faire une chose. Innama amruhu idha araja. Yaqulu lahu kun fayakun. Amruhu bayna al-kaf wa an-nun. Allah, quand il veut qu'une chose existe, il lui dit soit, il lui donne l'ordre, comme veut sa volonté, et sa puissance fait exister cette chose-là. Et bien, l'être humain, quand il veut marcher, il utilise ses pieds. L'être humain, quand il veut parler, il utilise sa langue. L'être humain, quand il veut manger, il utilise sa main, etc. Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de rien du tout. C'est l'homme qui a besoin d'Allah. Il faut sortir de l'esprit qu'on est en train de parler d'une créature. On est en train de parler d'un créateur qui n'a rien à voir ni dans l'essence, ni dans les actes, les attributs avec la créature. Les gens, ils pensent qu'Allah azzawajal ressemble à l'être humain. Les gens pensent qu'Allah azzawajal, il a une tête, des mains, des pieds, il est en haut, assis dans le septième ciel sur le trône. C'est faux, faites attention. Faites attention. Il faut enlever cette imagination. Il ne faut croire qu'aux attributs qu'Allah azzawajal nous a enseignés à travers le Coran al-Karim, à travers le Sunnah, et croire qu'Allah azzawajal, il a une essence, voilà qu'il tout ce que nous pensons, ce n'est pas comme ça. Donc, il nous est interdit de réfléchir, de penser sur l'essence d'Allah, subhanahu wa ta'ala, bien que nous verrons Allah Azza wa Jal le jugement dernier au paradis. Maqala, Shaykh wa rahmallah, raziqun lahum bila mu'na, mumitun bila makhafa. Allah Azza wa Jal fait mourir les humains. Ce n'est pas parce qu'il a peur d'eux. Ce n'est pas parce qu'Allah Azza wa Jal fait mourir les humains. Il a ba'ithun bila mashaqqa. Allah Azza wa Jal n'a pas peur des humains. Il les fait mourir parce que c'est sa volonté. C'est Allah, il fait dans ce royaume ce qu'il veut. Il veut donner la vie à un mécréant, il la donne. Il veut prendre la vie d'un mécréant, il la prend. Yu'til l'mulka liman yasha'a. Allah donne le pouvoir à qui il veut, il l'enlève de celui qui veut. Et Allah donne la vie à qui il veut, il la retire à qui il veut. On ne lui pose pas de questions. Pourquoi Allah? Pourquoi tu m'as fait ceci? Pourquoi tu as fait cela? Là, c'est à nous de répondre de ce que nous avons fait dans cette vie d'ici-bas, le jour du jugement dernier. Est-ce qu'on a vraiment répondu à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quand il nous a ordonné d'être dans des endroits où nous devons être. Est-ce que nous avons répondu à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il nous a interdit d'être dans les endroits où il est interdit d'être? Est-ce que nous avons répondu à l'appel de son prophète quand il nous a dit d'appliquer la sunna et de suivre la jurisprudence et d'éviter le haram? Est-ce qu'on a répondu à l'appel des sahaba, de leurs élèves et des ulama et des shuyur quand ils nous ont dit faites attention, ne suivez pas vos égos, ne suivez pas le shaitan. Malheureusement, l'ego aveugle les cœurs et les esprits. Les gens aujourd'hui, malheureusement, il y en a pas mal, ils suivent leurs égos, ils suivent le shaitan, ils suivent leurs intérêts, ils oublient la vérité, oublient al-haq, oublient Allah, oublient Rasulullah, oublient le Coran al-Karim, oublient le hadith. Nous ne pouvons pas suivre Sidna Rasulullah sans suivre ceux qui nous mènent vers Sidna Rasulullah. La totalité et la majorité des ulama, c'est eux qui nous mènent vers Sidna Rasulullah. Ce n'est pas une seule personne. Bien sûr, une personne, elle peut te montrer le chemin. Mais si une ou deux ou trois personnes sont à l'opposé de 99% de la majorité, de la totalité des savants de la Ummah, donc il y a un problème. Sallallahu alayhi wa sallam. Qala Shaykh wa rahmahullah ta'ala. Allah mumit bila makhafa, ba'ith bila mashaqqa. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va nous faire revivre, il nous fera ramener, nous fera ressusciter sans fatigue. Allah subhanahu wa ta'ala ne se fatigue pas, bila mashaqqa. C'est l'homme qui se fatigue. Et il n'a besoin d'aucune chose. Ma zala bi sifatihi qadiman. Il est toujours comme il était, avec ses attributs. قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته. C'est-à-dire que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne changent pas. Moi, je vais poser une question très simple à ceux qui croient que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône véritablement. Ils disent non, Allah azza wa jalla, il est sur le trône, sur et ala al-haqiqa, véritablement. Est-ce que istawa, c'est quelque chose qu'on peut appeler attribut ou non? Premièrement, si nous dites que Allah istawa haqiqatan, véritablement, donc c'est un attribut. Alors, est-ce que le trône est éternel ou non? Si vous nous dites le trône est éternel, donc vous avez rendu le trône comme shérik, associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous on sait que le trône, c'est une des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous nous dites qu'Allah Azzawajal istawa, ou l'istiwa c'est un attribut, on vous dit Allah Azzawajal avant de créer le trône, il a fait l'istiwa sur quoi? Est-ce que cet attribut il l'avait Allah Azzawajal avant de créer le trône? Si vous nous dites oui, Allah istawa avant de créer le trône, istawa sur quoi? Nous on dit istawa bima'na qahara, c'est-à-dire Allah Azzawajal, il est le dominant de toutes choses, avant de créer le trône, au moment de créer le trône, et après la création du trône. Donc Allah Azzawajal, qahirun, kama qala kullul mufassirin. Le problème aujourd'hui, c'est quand on a une divergence avec nos frères, c'est qu'on ne se réfère pas aux spécialistes du tafsir. On a une divergence sur un verset, on ne va pas voir un boucher, on ne va pas voir un cordonnier. Quand tu as un problème de ta chaussure, tu vas voir un cordonnier. Quand tu as un problème dans tes dents, tu vas voir un dentiste. Mais là, on a un problème dans le commentaire d'un verset. On va voir ce que les mufassirines, tous les mufassirines, sans exception, ont dit que ces versets-là, il faut prendre dans le sens métaphorique. Et c'est consensus, la ramène l'imam al-Nawawi, rahmallah, dans son commentaire sur Hadith al-Jariya, dans Sharh Sahih Muslim, en rapportant la parole de l'imam al-Qadi Iyad, « حيث قال, أجمعت الأمة فقهاؤها ومتكلميها ومؤرخيها وصوفيتها ولغويها على أن مثل هذه الآية في الحديث متأولة عندهم جميعا. » Qu'il y a un consensus entre tous les savants de la Ummah, qu'ils soient les fuqaha, les soufis, les savants de la langue arabe, les littéraires, les historiens, les savants du tawhid, les savants du hadith, que chez tous ces savants-là, par consensus, devant les versets métaphoriques, les versets ambigus, il faut les prendre dans le sens métaphorique. C'est clair, net et précis. Quand on dit le président est au-dessus du ministre, il ne l'a pas mis sur ses pieds, sur sa tête, il est monté sur sa tête, il est au-dessus de lui par sa puissance, par sa volonté, etc., de faire les choses. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, قال الشيخ رحمه الله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avant de créer la créature, il avait toujours ces attributs-là. Et ça, c'est une réponse aux Mu'tazilites qui disent qu'Allah Azza wa Jalla n'était pas puissant avant de créer sa créature. Donc, il n'avait pas ces attributs-là. Mais quand il a, après avoir créé ses créatures, il a ses attributs. Et cela, c'est quelque chose, c'est un dérapage grave dans la croyance Mu'tazilite et qu'on trouve chez quelques musulmans qui se disent sunnites. Wa kama kana بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est éternel avec ses attributs. Ses attributs sont éternels comme son essence elle est éternelle. Je vais me limiter à cela, inshallah ta'ala. Comme il a été dit, donc trois quarts d'heure pour le cours. Allah subhanahu wa ta'ala أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويهدينا ويفتح علينا فتوح العارفين. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, ça sera des cours qui ne vont pas trop étaler, ce n'est pas des cours d'une heure ou une heure et demie ou deux heures, comme ça vous ne serez pas fatigués, ça sera des cours réguliers, inshallah ta'ala, chaque jeudi, 9h, 9h30, en général c'est 9h30 après le Maghreb, commentaire de la Tahawiyya, et vous remarquez que je ne complique pas trop le commentaire pour que ça soit à la portée de tout le monde, que c'est pas inchallah c'est l'explication simple pour les questions. Moi je préfère que si vous avez des questions, posez-les dans la rubrique où il y a où c'est annoncé le cours. Posez vos questions là-bas et dans le prochain cours je réponds à ces questions-là. Donc je ne vais pas répondre directement dans le cours aujourd'hui, mais plutôt posez vos questions. Celui qui a une question, posez-la sur Aslama, dans la rubrique où on a annoncé posez vos questions, Inch'Allah, je vous répondrai. Alors pour la question vite fait du frère, il dit peut-on simplement dire qu'il y a une main, y croire sans que je l'interprète? Est-il valable d'avoir cette compréhension? Je dis, Akhi, premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas parlé de main. Allah a parlé de yed. Ça, c'est premièrement. Pourquoi? Parce que quand tu dis main à un francophone, directement, il va vers la compréhension de la main qu'on connaît et que tu peux tout faire pour lui enlever dans sa tête cette compréhension de la main. Il ne peut pas. Par contre, dans la langue arabe, qui est une langue vaste, qui est une langue métaphorique, ça passe. Et c'est très connu à l'époque que le mot yed, il était utilisé dans le sens métaphorique. C'est pour cela que la traduction, elle trahit aujourd'hui. Faites très attention. Al-Muhim, il n'y a pas des erreurs des salafs. Hein. On commente la Tahawiyya comme l'a compris l'imam Tahawi, comme l'a compris les Hanafites qui sont des maturidites, etc. Comme l'a compris les grands commentateurs. Non. L'imam Tahawi, rahmallah ta'ala. Ils confondent déjà, c'est pas, on ne parle pas de l'imam Cheikh Ibn Taymiyyah, rahmallah, mais on parle de l'imam Tahawi, rahmallah ta'ala. Donc, je disais que le mot yed, même l'imam Abu Hanifa, rahmallah, a refusé de le traduire en perse. Il a dit, al-yed, ça ne se traduit pas en perse. Alors, vous savez très bien que le mot, que le perse, est proche de la langue arabe. Malgré cela, l'imam Abu Hanifa, il a refusé de cette traduction. Donc, pour vous dire que, référez-vous à ce qu'a dit l'imam al-Tabari, et référez-vous à ce qu'a dit l'imam al-Qurtubi, référez-vous à ce qu'a dit l'imam al-Suyuti. Donc, quand vous allez voir que tous ces grands commentateurs, Ibn Kathir, etc., ont donné un sens métaphorique au mot « yed », nous, on en est où ? Cheikh al-Bouti, rahmallah, wa askanahu fasiha jinani, wa nafa'allahu bi'ilmi, wa asrari wa barakatih, dit, la métaphore, c'est un médicament. Car, mes chers frères, moi je vais vous poser une question. Quand vous aurez, en réponse au frère Azerti, quand on aura, mon frère, la foi des salafs, quand je dis les salafs, c'est les trois premiers siècles, hein, ça s'arrête là. Ce n'est pas ceux qui vivent au 21e siècle, en buvant du coca, en prenant le métro, et en s'habillant en jean, et ils dorment jusqu'à 10 heures. Il mange jusqu'à ce qu'il ne peut pas bouger, il se dit salaf, c'est pas ça. Salaf, ce sont les trois premiers siècles qui passent leur nuit à pleurer, et qui jeûnent toute leur journée, et qui lisent le Coran tous les jours, et qui sont dans le scrupule, d'accord, et qui ne passent pas leur temps à insulter leurs frères, à faire rentrer les uns et les autres, et les considérer comme des égarés, etc., etc. Donc, ces trois premières générations, subhanallah, ils avaient de la foi, ils avaient de l'iman, ils avaient la compréhension nette, pure du Coran, ils avaient aussi la langue arabe, la maîtrise totale de la langue arabe, et aussi, ils avaient l'iman. Donc, si on a la foi de ces salafs, si on a la maîtrise de la langue arabe, si on fait qiyam ilayl comme eux, et si on fait siyam comme eux, et si on a la foi qu'ils ont, maintenant, je te dirais, ma'alish, si tu comprends yed dans le sens coranique sans métaphore, Allah ibarak, bien que ils avaient ce qu'on appelle at-ta'wil al-ijmali, la métaphore générale. Ils avaient l'interprétation générale du texte. Et les khalafs, ceux qui sont venus après, ils ont l'interprétation détaillée. Pourquoi ? Pour expliquer aux gens le vrai sens de la chose. Parce que comme c'est des vrais arabes de l'époque, et que c'est des gens qui ils étaient proches de l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc l'arabe elle était forte. Plus tard, il y avait les non-arabes, ils se sont mélangés avec les arabes, la langue arabe elle s'est affaiblie, donc ils avaient besoin d'interpréter, d'expliquer ce que le verset a voulu. Abu Jahl comprenait très très bien ce que Allah a voulu dire quand il dit Ar-Rahman ala l'arsh istawa. Il sait très bien que ça parle de la puissance, de la domination d'Allah. Pourquoi il a précisé Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé du trône, la domination du trône, pourquoi il n'a pas parlé d'autre chose? Parce que tout cet univers-là, par rapport au trône, ce n'est qu'une poussière. Alors, si Allah Azza wa Jalla parle d'une chose, alors la poussière, c'est ne parlons même pas. Donc cet univers-là, par rapport au trône, c'est une poussière, comme nous le dit le professeur Hassan dans plusieurs hadiths. Alors, Allah Azza wa Jalla, s'il domine le trône, alors que dire? Et le trône, comme le disent plusieurs hadiths, ce n'est pas un siège pour s'asseoir, c'est une coupole, qubba khadra, c'est une coupole immense, ce n'est pas fait pour s'asseoir. Allah Azza wa Jalla n'a pas besoin de s'asseoir. Au contraire, c'est le tronc qui a besoin d'exister, qui a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je vais lui mettre à cela, inshallah ta'ala, Posez vos questions, Inch'Allah, dans la rubrique où on parle de ce cours. Et je tâcherai, bihaoulillah, de vous répondre, Inch'Allah, dans le cours. Dans chaque cours, je reprendrai les questions précédentes. Si Allah le veut, si Allah nous donne, Inch'Allah, de la rahma, nous donne, Inch'Allah, de la foi, nous donne de la science, de la sagesse. Je demande à Allah Azzawajal, j'implore Allah Azzawajal d'unir le cœur de la Ummah. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de l'union, on a besoin du savoir, on a besoin de la sagesse, on a besoin de la science, on a besoin de la rahma, on a besoin de la modestie. On est fatigué des gens qui passent leur temps à nous dire ça c'est bid'a, ça c'est shirk, ça. Ya akhi, l'Ummah, elle est fatiguée de ces gens qui passent leur temps à bourrir le crâne des gens. Jusqu'à quand ils ne parlent pas de la civilisation, de la grandeur de l'islam, les mathématiciens, des astrophysiciens, jusqu'à quand on ne parle pas des médecins musulmans, jusqu'à quand on ne parle pas des tabaqat fuqaha al-malikiyya tabaqat, jusqu'à quand on ne parle pas des grands savants de la Ummah que ces gens-là ont essayé d'effacer. Donc, il est temps que l'histoire refasse surface et que la lumière d'Allah Azza wa Jal jaillit sur cette Ummah et Inch'Allah. وما ذلك على الله بعزيز سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد اللهم صل صلاة كاملة على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفجر به الكروب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحه ونفس بعد بكل معنى ملك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين on vous voit inshallah dans le site Aslama profitez-en et venez barakallahu fikum pour participer et apprendre والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته